Chapitre 2. Lorsque je suis arrivé à l'université, je suis allé me présenter à quelques-uns de mes professeurs. Ma première rencontre fut avec M. Krempe, professeur de sciences physiques. C'était un homme petit, avec une voix dure et un physique ingrat. Il me parut arrogant, car seuls ses travaux lui importaient. Il me posa des questions sur mes connaissances. Je répondis en lui donnant les noms de Grand Albert, Paracels et Agrippa. M. Krempe fut très surpris et dit « Est-ce que vous avez vraiment lu toutes ces bêtises? Ce sont des idées très vieilles. En plus, est-ce que vous saviez qu'elles étaient fausses? Il faut recommencer toutes vos études. » Puis, sans même me laisser le temps de répondre, il me présenta le programme universitaire. Les cours seraient partagés avec un autre professeur, M. Waldmann. Quelques minutes plus tard, je quittais son bureau. J'habitais avec d'autres étudiants dans un immeuble tout près de l'université. L'accueil du professeur Krempe m'avait étonné, mais je ne regrettais pas cette rencontre. Honnêtement, je ne lisais plus ces alchimistes depuis longtemps. Et une chose était sûre, c'était que je n'allais pas recommencer ces lectures. Ces scientifiques oubliés cherchaient l'élixir de vie, la pierre philosophale, des objets de recherche ambitieux, alors que les sujets de recherche de la physique moderne étaient bien plus modestes et ne m'impressionnaient pas. L'année universitaire allait commencer et j'étais peu motivé. J'étais d'une humeur morose lorsque j'entrais dans la salle de M. Waldmann pour mon premier cours d'introduction à la science physique. Ce dernier était différent de M. Krempe. Il était plus sympathique et aimable. Il présenta les premiers scientifiques et leurs travaux. En l'écoutant, j'eus une révélation. Toutes ces découvertes ont été faites avant moi. C'est la base de notre savoir. Moi, Frankenstein, j'irai plus loin. Je créerai une nouvelle voie, inconnue encore du monde entier. Le lendemain, je rendis visite à M. Waldmann. Je lui parlai de mes anciennes lectures, de la même manière que je l'avais fait avec M. Krempe. Il m'écouta avec attention, puis dit « Ces hommes m'ont construit la base de la connaissance d'aujourd'hui. Cependant, l'objectif de leur recherche pose une vraie question. D'un point de vue scientifique, l'idée était grande, mais d'un point de vue éthique, est-ce que nous avons le droit de changer la nature des choses? Si votre souhait est de devenir un homme de science, je vous conseille d'étudier toutes les branches de la science, y compris les mathématiques. » Il termina notre rencontre par une visite de son laboratoire. Il me montra tous les outils nécessaires pour commencer mes recherches. À partir de ce jour, j'étudiais intensément et j'allais à tous les cours. Je lisais tous les auteurs conseillés par M. Waldmann. Même M. Krempe m'aidait dans mon apprentissage. Dans le domaine scientifique, il y a toujours des choses à découvrir et des problèmes à résoudre. Le monde de la recherche est sans limite. J'avais énormément progressé dans mes études. J'avais même fait des découvertes dans l'amélioration des instruments scientifiques. Ceci créa l'admiration des autres élèves et l'enthousiasme de mes professeurs. Après deux longues années de travail, j'envisageais mon retour à Genève pour retrouver ma famille. Mais un événement m'empêcha de rentrer chez moi. Un des sujets qui me fascinait était l'anatomie. J'étudiais chaque aspect de la physiologie, chaque organe des êtres vivants. Si je voulais comprendre les causes de la vie, je devais comprendre celles de la mort. Le corps humain m'intéressait et surtout sa décomposition. J'analysais les cadavres dans les cimetières. J'observais comment l'homme passait de la vie à la mort. Rien ne me faisait peur, jusqu'au moment où, après toutes ces nuits d'expérimentation, je découvris le secret de l'immortalité. Maintenant que j'avais ce pouvoir entre mes mains, comment allais-je l'utiliser? Est-ce que je devais faire plus de tests? Mon envie de créer un être humain était plus forte. J'ai alors passé toutes mes journées et mes nuits dans mon laboratoire. Je choisis toutes les parties de son corps, ses muscles, ses os, ses cheveux et ses dents. J'utilisais les plus beaux matériaux que j'avais trouvés. J'étais tellement aveuglé par mon travail que je perdais le sens moral de mes actions. J'étais dans un tel état d'excitation que mon imagination était sans limite. Qui aurait pu imaginer les horreurs qui se passaient dans mon laboratoire. Un soir de novembre, à 1 h du matin, la créature ouvrit alors un œil. Quand elle prit vie, tout son corps se mit à trembler. Comment vous décrire la pauvre créature ? Elle était de grande taille, d'environ 2 mètres de haut et d'une carrure égale à sa taille. Ses dents étaient blanches, ses cheveux étaient très noirs et ses yeux blancs. Une peau de couleur jaune couvrait ses membres. Personne ne pourrait supporter de la voir. J'avais créé un monstre. Je quittais précipitamment mon laboratoire pour me cacher dans ma chambre. Épuisé, je m'endormis sur mon lit. Je me réveillais pensant que j'avais fait un cauchemar. Lorsque je vis le monstre en face de moi, je criai.
Oh !
Il avait l'air de vouloir me parler. Des bruits sortaient de sa bouche, mais je ne comprenais rien. Il tendit le bras pour essayer de m'attraper. Je m'enfuis en courant jusqu'en bas de l'immeuble. Il était 6 heures et il pleuvait sur Ingolstadt. J'allais en direction de la ville. Mon cœur battait très vite. J'avais peur et j'étais stressé. Je marchais dans les rues pour me calmer. Je m'arrêtais par hasard devant un grand hôtel. À cet endroit, les voyageurs étaient habituellement déposés lorsqu'ils arrivaient par diligence en ville. Une voiture venue de Suisse s'arrêta justement devant moi. La porte du passager s'ouvrit et je vis apparaître Henri Clerval. Quelle coïncidence ! Pour la première fois depuis longtemps, je me sentis heureux. « Henri, c'est bien toi ?»«
Victor !
Oui, c'est moi. Comment est-ce que tu savais que j'allais venir ? Comme je suis heureux de te voir. Je passais par hasard devant cet hôtel. Comment va ma famille ? Mon père, Elisabeth, et mes frères Ernest et William ?
Tout le monde va bien. Ils auraient aimé que tu donnes plus de nouvelles. Mais, Frankenstein, je te regarde et tu n'as pas l'air bien. Ton visage est blanc.
Oui, j'étais très occupé par un projet personnel. Mais je suis libre maintenant. Tout est fini. Nous allâmes en direction de mon appartement. Je ne savais pas si la créature était encore dans l'appartement. Je ne voulais absolument pas qu'Henri la voie. Je lui demandai d'attendre quelques minutes à l'extérieur. J'ouvris la porte. En faisant beaucoup de bruit, je regardais dans le laboratoire et dans ma chambre. Le monstre était parti. Nous avons pris le petit déjeuner. J'étais encore dans un grand état d'anxiété. J'avais des gestes brusques, je tapais des mains et je riais bruyamment. Henri était gêné et il ne savait pas comment réagir. Moi non plus, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait.
« Victor, tu n'es pas normal. Je ne te reconnais pas. Mais qu'est-ce que tu as ?»«
Je ne peux rien te dire. Lui, par contre, peut te répondre. Tout cela est à cause de lui. Attention, sauve-toi, il arrive. Il va nous tuer. »
Je croyais que le monstre était dans la pièce. Je me cachais derrière Henri. Aucun monstre n'était là. Je suis alors tombé gravement malade. Pauvre Clerval, il dut s'occuper de moi tous les jours. Ne voulant pas inquiéter ma famille à Genève, il ne leur dit rien. Henri avait compris que quelque chose de grave s'était passé, mais sans en comprendre tous les détails. Je suis resté dans ma chambre plusieurs mois. Quand ma santé s'améliora, je contactai ma famille. Elisabeth m'avait envoyé une lettre. Elle parlait de mes frères. William et Ernest grandissaient. Ma famille avait une nouvelle employée de maison qui s'appelait Justine. Elisabeth était très contente qu'elle fasse partie de la famille. Je lui donnais des nouvelles. Je lui parlais de Clerval. J'étais content d'avoir un ami comme lui. Depuis ma crise nerveuse, tout ce qui était en lien avec l'étude de la science me donnait des nausées. Henri avait enlevé tous les instruments du laboratoire de chez moi. Mais il était difficile d'éviter mes professeurs. Un jour, nous sommes sortis de l'appartement et nous avons rencontré M. Waldman. Il parla fièrement de moi à Clerval. Il mettait en avant mes progrès scientifiques, les découvertes que j'avais faites. Selon lui, j'allais devenir un grand scientifique. Il espérait que j'allais travailler comme professeur au sein de l'université. Il attendait que je parle, mais j'avais honte. Puis on rencontra M. Krempe, qui fut plus direct.
Lorsque j'ai rencontré votre ami pour la première fois, ce jeune homme ne parlait que de Cornelius Agrippa. Et regardez-le maintenant. C'est moi qui lui ai tout appris. À son âge, j'étais déjà professeur. Frankenstein, vous avez encore des choses à apprendre, mais je suis sûr que vous y arriverez. » Puis, comme à son habitude, M. Krempeux continua seul la conversation. Il parla de ses recherches, de ses découvertes scientifiques. Il oublia notre présence. Par chance, je pouvais rester dans mes pensées. J'avais prévu de rentrer à Genève avec Clerval. Avant notre retour au pays, il me proposa de faire une excursion dans les montagnes. Comme lui, j'adorais être dans la nature. La beauté des paysages, le ciel et la couleur des arbres me rendaient extrêmement heureux et me redonnaient courage. Après 2 semaines de marche dans les montagnes en sa compagnie, je suis retourné à l'université un dimanche après-midi, la santé retrouvée et l'esprit léger. J'avais reçu une lettre de mon père.